Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivent en direct sur l'antenne de QG. Je suis particulièrement ravie ce soir de retrouver mes camarades de quartier populaire hein, après quelques absences. Vous m'avez manqué.
C'est réciproque.
Voilà, donc on se retrouve en ce mardi soir, ce mardi 4 février, après 2.49.3 déclenché en moins de 24 heures. D'autres sont d'ores et déjà annoncées. Une perspective donc quasi nulle de faire tomber demain le gouvernement lors du vote à l'Assemblée nationale. Nous en sommes là. Le PS est revenu sans surprise à la niche macroniste et le Rassemblement national ne semble pas encore décidé à ramasser la mise. Le temps semble comme suspendu et pas pour le meilleur depuis le coup d'État immobile de l'été dernier. Depuis ce moment, les derniers sont les premiers. Les politiques les plus has-been, issus des partis les plus désavoués, de Bayrou à Retailleau, en passant par l'excellente Elisabeth Borne, ont tous été remis en selle. Le problème, c'est aussi que pendant ce temps-là, les lignes sont en train de bouger dans le monde entier suite à l'élection de Donald Trump. Comme le dieu caché de Lucien Goldman, les États-Unis sont en train de retirer leurs dollars de beaucoup de théâtres d'opération et leurs vassaux se retrouvent nus, renvoyés à leurs intérêts nationaux. Problème, qui défend aujourd'hui les intérêts de la France? Certainement pas le gouvernement aujourd'hui au pouvoir, alors qu'une nouvelle saignée d'emplois historiques se prépare dans l'industrie pour 2025 et de nouvelles coupes drastiques dans les finances publiques. Alors oui, jusqu'où ira l'humiliation d'une France désormais contrainte à regarder passer les trains de l'histoire? Pour en parler, ce soir, on se retrouve une nouvelle fois dans Quartier Populaire avec Harold et Didier. Je vais tout de même rappeler ce soir le principe de Quartier Populaire pour ceux qui nous découvrent. Il y en a tous les 15 jours. Je rappelle que Quartier Populaire est un espace pour recréer de la force collective hors des partis avec trois animateurs. Donc, je partage l'antenne de QG pour ces Quartiers Populaires avec Didier Maistre, qui est l'ancien directeur général de Sud Radio, journaliste indépendant et désormais membre de la rédaction, et Harold Bernat, professeur agrégé de philosophie à Bordeaux. Voilà, j'engage évidemment tous ceux qui nous écoutent ce soir, hein, comme tous les 15 jours, à réagir, à poser des questions dans le chat, c'est très important. Nos modérateurs nous les font remonter ce soir. Maxime et Antoine sont là pour faire entendre votre voix dans le chat. Donc n'hésitez pas. C'est une émission qui, bien sûr, a vocation à être totalement interactive. Donc avant d'en venir à l'essentiel, j'aimerais quand même avoir votre premier commentaire à tous les deux, Harold et Didier, hein, au sujet de la position prise par l'EPS une fois de plus. Hier, hein, une fois de plus, le PS choisit le statu quo. Première question, est-ce qu'un jour nous allons être débarrassés de ce parti?
Alors déjà, tu m'as fait un peu peur quand tu as dit dans ta présentation, le roi est nu. Je me suis dit, on va tout de suite voir le problème en France. Et puis non, puis je me suis rappelé du conte d'Andersen et ouf, j'ai été rassuré. Blague à part, le PS, tant que les différents partis politiques, et notamment à gauche, seront dans cette espèce de fable qui est l'union de la gauche, l'union, pourquoi faire? Ça ne veut rien dire, l'union. C'est comme quand Faure dit... Le pays doit être gouvernable. Ça ne veut rien dire non plus, un pays gouvernable. Il n'a ni à être gouverné ni gouvernable. C'est pourquoi faire, au final. Donc, tant qu'on n'est pas clarifié, on n'est pas au clair avec ça, et qu'on essaie de faire une union de la carpe et du lapin contre nature, mais le PS sera toujours au centre du jeu. C'était un parti devenu infinitésimal, qui s'était réduit comme peau de chagrin, qui a été remis en selle au goût du jour et comme ressuscité par LFI au moment des législatives, après la présidentielle. Voilà, c'est un parti d'essence social-démocrate. Le socialisme n'existe pas pour moi. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un courant d'idées. C'est juste un habillage quand on fait partie de la bourgeoisie ou de la droite honteuse. Je sais ce qu'est le communisme, je sais ce qu'est l'anarchisme. Le socialisme, ça n'existe pas. Nous sommes d'une génération, nous avons grandi dans l'idée, qui était une idée fausse, que le socialisme était un communisme débarrassé de ses scories et débarrassé de ses excès. C'est-à-dire, en fait, le communisme pour les gens civilisés. Il n'en est rien. C'est pas une pensée. Et dans sa version musclée, le socialisme aboutit au fascisme, au pluriel, je le mets. Et dans sa version lâche, produit le macronisme. Ce n'est que ça, le socialisme. Donc, il faut, une fois pour toutes, comprendre qu'au point où on en est, le réformisme ne marche plus, surtout avec des partis dont l'ADN est la trahison, et qui sont en fait des produits du système. Et comme le système, petit à petit, a usucapté tous les leviers syndicaux, médiatiques surtout, les leviers économiques, dans l'économie financière, financiarisée, il est illusoire de croire que de l'intérieur, on va pouvoir réformer les choses. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus radicale au sens étymologique du terme. Et en tout cas, on pourrait avoir la même analyse à droite, d'ailleurs, avec les Républicains, hein, qui ont exactement la même fonction. Moi, je vais un peu plus loin. Je dis qu'aujourd'hui, la vraie droite, c'est le Rassemblement national et Reconquête, et la vraie gauche, c'est LFI et ce qui reste du Parti communiste. Parce que les Verts et les écolos, c'est un ersatz de PS. Aujourd'hui, on fait mine de croire qu'ils sont encore dans l'union de la gauche, etc., et qu'ils tiennent bon. Ils tiennent bon parce que personne n'a vraiment voulu d'eux. Ce sera les prochains à trahir. Si une opportunité se présentera, ils ne vont pas avoir l'état d'âme, hein, les écolos. Hein. Soyons clairs là-dessus. Hein. Il faut que tout le monde ait ça à l'esprit. Voilà.
Et de fait, on voit que LR est en train d'être absorbé par le RN. Hein. Aujourd'hui même, le RN a appelé Bruno Retailleau à prendre sa carte après ses récentes prises de position sur la loi immigration. Et le fait qu'une fois de plus, aujourd'hui, hein, il y avait une manifestation policière devant l'Assemblée nationale, hein, les syndicats d'extrême droite manifestaient et Bruno Retailleau est allé leur faire des bisous
Alors,
de
je voudrais
façon
juste dire un truc
assez.
là-dessus, parce que j'étais intervenu de façon assez vigoureuse pendant la campagne présidentielle. Moi, je trouve ça extrêmement choquant. C'est un avilissement du politique. Je m'explique en deux mots. Ce n'est pas au syndicat, d'abord, que les policiers soient syndicalisés, c'est choquant. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils soient syndicalisés pour des histoires de matériel, etc., de moyens, d'uniformes, de salaires. Ça ne me choque pas. Que les syndicats policiers fassent de la politique, quand on est des forces de l'ordre ou des gardiens de la paix, appelons ça comme on veut, c'est extrêmement choquant. Mais ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'on est là aussi dans un renversement. Normalement, ce sont les politiciens qui devraient entendre, les politiques qui devraient entendre les syndicats de policiers, et non l'inverse. Et pendant la campagne présidentielle, et aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, évidemment, puisqu'ils protègent les politiciens. Ce sont les politiciens qui font un audit, ce sont, pardon, les syndicalistes policiers qui font un audit des politiciens et des différents programmes. Le seul qui avait refusé parti de ne pas de se soumettre à ce truc-là, c'était, il faut le noter, la France insoumise quand même, hein. Tous les autres, y avaient été
Absolument,
à plat
absolument.
ventre, à plat ventre.
Absolument. Le PS aussi, d'ailleurs. Alors, Harold, ton point de vue sur la position du PS, sur le fait que Bayrou arrivait à se maintenir malgré tout, sur le fait qu'on dit d'ailleurs en ce moment même à l'Assemblée nationale que probablement il n'y aura pas de dissolution, même l'été prochain.
Ah, il va tenir, il va tenir.
Aujourd'hui, vous avez vu passer cette information, l'ancienne Fondation Abbé Pierre annonce 350 000 SDF en France. La grande misère avance. Notre pays va très mal socialement, c'est une catastrophe et c'est que le début hein, du grand naufrage. On est parti là. 2025 va être une année terrible. Moi, ce que je constate, c'est que quand il y a des luttes sociales, quand on est dans la rue, quand on se bat pour nos métiers, pour notre travail, pour la dignité des travailleurs et du monde du travail, du monde salarié, il y a deux choses qui disparaissent. Les discours xénophobes et le PS. Je m'explique. Lorsqu'on est en fait dans un combat, le discours xénophobe sur l'étranger, qu'on nous matraque avec ça, on n'entend plus ça. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans la rue et qui se battent, ils ne raisonnent pas dans ce cadre-là. Et deuxièmement, le PS disparaît parce qu'on est dans le sérieux, on est dans l'affrontement. C'est un petit peu un système de vagues, de flux et de reflux. Quand la lutte sociale est là, quand la conflictualité est sérieuse, quand le combat est sérieux, quand on met notre peau sur le tapis, quand on se bat, quand on fait grève, quand on est actif, quand on construit des solidarités politiques de façon transclasse, le PS n'existe plus. Il disparaît du champ. Parce que ce sont des gens qui ne sont absolument pas dans le combat politique. Ils vivent de l'échec des combats politiques. On dit la trahison du PS. C'est plus que ça. En ne votant pas la censure, le PS s'assoit sur des années de lutte contre Macron. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de fragmenter le nouveau Front populaire. Ils écartent la LFI en les disqualifiant, alors que l'attitude cohérente, c'est la LFI qui porte l'attitude, c'est-à-dire c'est la censure, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils cornérisent la LFI en disant ça, c'est irresponsable, nous sommes responsables. En fait, ils s'assoient littéralement sur l'ensemble de nos luttes. Et évidemment, ils servent le projet macroniste. Donc c'est une trahison, c'est vraiment. Bon, après, dernière chose, et Didier l'a dit, pour moi, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Le nouveau Front populaire a remis sur les rails cette espèce de bâton merdeux du PS, avec Hollande à sa tête qui se rêve un destin présidentiel. C'était une erreur, en fait. Mais c'est une erreur qui est liée à la logique électorale et aux partis politiques. Il faut des élus, il faut du fric, il faut, etc. Et donc, on fait ça et on rejoue le petit cinéma éternellement. Là, le PS, évidemment, a détruit. Le peu qui pouvait être construit, en tout cas à gauche, pour moi, ça c'est terminé. Et il est comptable d'une, je dirais, d'une, oui, d'une. Objectivement, ils sont macronistes. Voilà, il faut le dire clairement. Et ils ont beau faire des circonlocutions, c'est un fait. Un dernier point, c'est le. Il faut dire le PS, mais il faut dire aussi la CFDT. Hein. La secrétaire de la CFDT a dit quand même, socialement, le budget est injuste, mais en même temps, hein, Macron, en même temps, hein, il ne vient pas de nulle part. Il est urgent de le mettre en place. Moi, ça me fait penser sincèrement hein, aux attitudes PS et FDT qu'on a pu avoir dans les grèves. Quand ça commençait à cogner, ils rasaient les murs, ils partaient en courant, ils nous prenaient le micro, hein, et puis on les voyait détaler comme des lapins, en fait. Ces gens ne sont pas sérieux. Voilà, c'est tout. C'est pas sérieux. Et je suis d'accord, maintenant, il faut en finir. Maintenant, c'est là la lie. Voilà, il faut les achever
Alors, juste un
définitivement.
truc pour aller dans
Ouais,
ton sens.
juste un mot, Didier, après on prend des
Voilà.
du chat, il y en a déjà pas mal.
Voilà, juste pour dire que, en fait, la CFDT est au syndicalisme et au monde du travail ce que le Parti socialiste est aux luttes sociales et à l'humanisme, c'est-à-dire une escroquerie. Et en fait, c'est le système qui étend, c'est l'extension du domaine de la lutte fictive du système qui, en son sein, crée ce genre d'ersatz pour capter les révoltes populaires dans le monde du travail. Dans la sphère sociale et médiatique, dans toutes les sphères en fait, et de faire capoter ces contestations et ces luttes en donnant l'illusion d'un combat permanent. Et ça, c'est assez
Alors,
terrible. Voilà.
vous êtes déjà nombreux et j'engage tous ceux qui arrivent à poser leurs questions dans le chat, à réagir dans le chat. C'est le principe de quartier populaire. Donc déjà quelques questions. Une question de Mas Assalas. Quelqu'un peut-il nous dire ce que cherche réellement le PS? Son objectif est-il de présenter Glucksmann pour remplacer Macron? Une autre question avec un autre pseudo. Une question pour Aude et Harold. Que veut dire encore être de gauche aujourd'hui? Donc on va commencer par l'objectif du PS, Glucksmann.
Alors, moi, je peux répondre à ça, puis je vous laisse
Vas-y.
répondre. L'objectif du... Alors, il y a plusieurs choses, hein. Le PS est monolithique dans son infamie, mais pas dans ses ambitions. Et il y a évidemment Glucksmann qui veut faire son chemin, sa route, et qui s'imagine un destin présidentiel, hein. Un coup de patate dans la bouche, une forme d'aristocratie, de l'international socialiste. Et les Ouïghours, il soulève ses chaussettes rouges comme Balladur, il dit, oh, les Ouïghours, j'ai mal à mes Ouïghours. Bon, voilà. Et puis il y a Hollande de l'autre côté, qui lui s'est imposé, s'est auto-célébré et auto-désigné, parce que pendant les législatives, ils ont dit, oui, on l'a désigné, mais en fait, il a pris tout le monde de court. Parce qu'évidemment, il se revoit un destin présidentiel. Hein. Moi, c'est toujours été ma thèse, hein, depuis qu'il a perdu, parce qu'il a une revanche à prendre. Hollande, c'est quelqu'un de très méchant, de très bonhomme et de très rigolo comme ça. Et c'est quelqu'un de très méchant et de très vindicatif. Je déjeunais un jour avec Rebsamen, il était encore sénateur, dans un restaurant près du Sénat, et je lui dis, mais, et c'était. Hollande était encore président de la République, déconnait complètement, et je lui dis, mais vous pouvez lui dire, vous qui êtes son ami, qui déconne complètement. Il m'avait répondu, son ami, mais je ne suis pas son ami. Il n'a pas d'amis. Hollande, il est lisse comme c'est un galet, il est lisse à l'extérieur et dur à l'intérieur. On ne sait pas, je ne sais pas qui est ce type, il m'avait répondu. Donc il y a évidemment Hollande qui a envie, qui se sert du Parti socialiste, et les socialistes sont des lâches, donc ils iront dans le sens du vent, comme toujours. Si c'est Attal, ils iront vers Attal, sans aucun problème. Si c'est Hollande, ben, s'il peut jouer sa chance, ça semble grotesque, hein, comme ça. Mais comme je le disais avant de prendre
Allez,
l'antenne,
ça l'est,
mais n'oublions pas qu'Emmanuel Macron s'est fait réélire, après tout ce qui s'était passé. N'oublions pas ça, hein.
dans un contexte quand même très particulier, en sortie de Covid, avec la guerre en Ukraine, etc.
Les contextes,
Les
ça se
choses.
crée. Ça se crée artificiellement. On peut faire monter artificiellement le Rassemblement national. Il peut se passer n'importe quoi. Et à un moment, depuis pas mal d'années maintenant, on choisit la solution du moins pire. Et finalement, Hollande, ça a été le moins pire. Après Sarkozy, deux fois Macron, ça a été la solution du moins pire. Et avec ça, on a toujours le pire. Donc, moi, je dis, il faut pas intellectuellement exclure l'hypothèse de Hollande candidat. Donc voilà, pour répondre à la question, finalement, le Parti socialiste est un parti d'opportunisme qui ira vers le plus offrant, parce que c'est un parti de notables, et ça n'a pas changé.
Harold, quand on voit, bon bah voilà, hein, l'échec actuel du NFP qui explose une fois de plus, qu'est-ce qui fait que tu restes à gauche? Et comment tu définis cet engagement aujourd'hui?
Pour moi, je définis l'engagement à gauche. Bon, alors d'abord sur Hollande, moi je partage l'avis de Didier, hein. Rien n'est fait en politique. Il peut y avoir des retours incroyables. D'autant plus qu'on est dans une situation de vide quand même absolu. On est quand même en train de parler d'une campagne à la présidence de la République avec Attal, hein, juste Attal, quoi. Attal, Glucksmann, Hollande. Enfin, c'est ça l'offre quand même, hein. Donc, ce vide-là. Il est absolument certain que Hollande pense qu'il peut en bénéficier. Je veux juste rappeler une date, 1959, l'attentat de l'Observatoire, Mitterrand. Pourquoi l'attentat de l'Observatoire, qui a été classé en non-lieu d'ailleurs, hein, ça n'a jamais été jugé parce que, bon voilà, d'ailleurs, Mitterrand avait retiré sa plainte, enfin son processus de demande en cassation, hein, en particulier. Bon, pourquoi? Mais la stratégie, c'est l'extrême droite. En fait, ils ont tout intérêt à maximiser l'extrême droite pour faire monter un espèce de centre mou et se mettre en garant et en protection de tout ça. C'est un jeu insupportable. On le joue depuis 20 ans, plus de 20 ans, et on continue et on va nous le resservir parce que la formule est trop bonne. Donc ça, c'est le problème. Ensuite, la gauche. Bah, le problème, je suis assez pragmatique sur ce sujet. Lorsqu'il s'agit de défendre les institutions publiques, lorsqu'il s'agit de monter au carton, lorsqu'il s'agit d'affronter La police du capital, on va l'appeler comme ça, lorsqu'il s'agit de faire grève, lorsqu'il s'agit de laisser des journées de salaire, lorsqu'il s'agit de faire du réseau, de se retrouver entre militants, eh bien je suis désolé, hein, mais je vois peu la droite. Voilà, je vois peu la droite. J'avais discuté avec M. Bellamy il y a quelques années sur la réforme Blanquer. Lui était vent debout, il me disait oui, la réforme Blanquer, c'est quand même catastrophique. Sauf que M. Bellamy n'a pas soutenu la réforme des professeurs, la lutte des professeurs lorsqu'on se battait, et que la droite LR, il suffit de regarder hein, les tchats du Figaro, nous insultait de tous les maux en disant qu'on était des zadistes et des terroristes. La droite insulte les mouvements sociaux. Alors, en effet, la gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. Je suis bien d'accord avec ça, mais on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Les gens qui sont quand même encore dans une opposition un peu musclée ne sont pas à droite. Voilà, ils ne sont pas à droite. Sauf, et là, et c'est là que ça change tout, en tout cas, ça a changé pour moi aussi la perception que j'ai eue, sauf lorsqu'il y a eu le passe vaccinal de la honte, une saleté vraiment dégueulasse en fait, le Covid circus, l'ingénierie sociale. Là, on a eu, pour la défense des libertés, on parle aujourd'hui des ZFE et de tout ce qui va toucher le monde du travail et des prolétaires. Là, sur les libertés, on a un énorme problème. Et en effet, alors là, pour le coup, on a la droite. Donc en fait, on a enfin une partie de
Ah,
la droite.
pas la droite LR, hein.
Pas la droite
Une
LR, non,
droite
non.
souverainiste, une droite dure, très
Exactement,
particulière,
une
hein.
droite souverainiste, une droite dure. Et le problème de ça, c'est que évidemment, on a énormément de mal à faire un arc entre la lutte sociale et les libertés politiques. C'est cet arc qu'il va falloir faire, et cet arc, il parle de la base sociale. Il parle des gens, en fait, du travail. C'est le projet de quartier populaire. C'est l'idée de repartir de cette base du travail, du social, pour refaire cet arc-là. Mais par contre, là, je suis convaincu que l'idée de l'union de la gauche, ça, c'est fini, c'est perdu.
Alors justement,
Ça fait très très longtemps que je n'y crois absolument plus. Pour moi, c'est du vide. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera pas et ça ne marchera plus.
une question dans le prolongement de ce que tu dis, Harold, qui vient du chat, une question de Mike. La gauche va-t-elle enfin comprendre qu'il faut cesser de faire les castors en soutenant des candidats macronistes comme Borne face au RN au second tour?
Là, bien sûr, on l'a dit, on
Non,
l'a
mais
dit.
nous, on l'a toujours dit, mais... Ici, on l'a toujours dit et on l'a toujours fait. On s'est abstenu au second tour,
Bien sûr.
semble-t-il, hein, tous les trois. Mais est-ce que les gens vont enfin comprendre que ça mène à la situation d'enquistement dans laquelle nous sommes actuellement? Que ça ne règle rien?
C'est pas sûr. Moi, je pense qu'on peut encore avoir à l'envi, comme le disait Harold, de ce genre de situation. Pourquoi? Parce que les esprits sont bien matrixés quand même maintenant, depuis tout ce temps-là. Et en fait, il y a une espèce de d'échelle du pire. Donc, c'est pas aujourd'hui, ici et maintenant, c'est demain et ailleurs. Et aujourd'hui, malheureusement, la gauche est tombée dans ce piège, à la fois dans les pièges sociétaux, mais aussi dans les pièges temporels. C'est-à-dire que il y a une espèce de fascisme réel ou fantasmé qui pourrait arriver dans 2, 3, 4, 10, 30 générations et qui serait bien pire que celui larvé dans lequel nous nous engluons aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement grave parce que, en fait, il y a l'idée que le mal est consubstantiel à une extrême droite fût-elle fantasmée, mais est fait un peu par inadvertance et parce que c'est la faute à pas de chance par une social-démocratie qui n'aurait pas tout à fait bien réussi, mais que ça peut toujours se corriger. Or, non, pas du tout. Pour moi, ce sont les deux faces d'une même pièce, le côté pile et le côté face. Et dans toute l'histoire, d'ailleurs, appelons ça de l'extrémisme ou de l'extrême droite, c'est d'abord une bourgeoisie qui choisit de s'avilir et de s'effondrer. C'est plutôt Hitler que le Front populaire, pour résumer, hein. On est encore dans ce paradigme. Et à mon avis, ça ne changera pas, ça. Ça ne changera pas. Et pour que ça change, il faut les hommes. Et à un moment, je pense que si on reste dans le débat d'idées, c'est très bien, hein, à gauche, le débat d'idées, mais les idées, elles ont besoin de s'incarner. Et si elles ne s'incarnent que dans des gens médiocres, bah, les idées, finalement, elles vont finir par s'étioler, par disparaître et s'envoler en fumée. Et aujourd'hui, sans avoir besoin d'un homme providentiel, parce qu'on n'a pas besoin de sauveur, on a besoin et que les partis politiques, sans doute, fassent une sélection sur d'autres critères que sur le clientélisme ou la soumission pour choisir leur candidat. Ça, c'est un vrai problème. Il n'est de richesse que d'hommes. Et les gens qui portent, malheureusement, et je ne vais pas citer de nom pour pas être trop cruel, qui portent les projets, à l'exception de quelques-uns qui sont brillants et qui sont un peu les têtes d'affiche, c'est quand même pas terrible le niveau, ni d'un point de vue du fond, ni aussi dans l'expression qui compte aussi à un moment où la communication est prégnante, d'avoir un certain nombre de personnes qui braillent et qui sont elles-mêmes débraillées physiquement et dans l'esprit et dans le propos, ça le fait pas, ça le fera jamais. Parce que la France est quand même un peu conservatrice et ne veut pas de gens en haillons qui se curent le nez. Ça ne marche pas, ça. Je suis désolé, hein. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est comme ça.
Oui, et puis le problème aussi, c'est que tous ces gens se glissent dans une structure de parti qui est préexistante et ils pensent, en fait, c'est le cas de Philippe Brun, hein, ils pensent pouvoir faire la même carrière que Hollande. Le problème aujourd'hui, c'est que la situation a changé et on est obligé de créer une puissance. On ne peut pas s'adapter à ce qui est, on peut pas rentrer dans le moule, en fait. Il faut créer quelque chose. Et le problème, c'est que ces gens ne sont pas des créateurs. Ce ne sont pas des gens capables de créer un mouvement, de mettre en mouvement, de mettre un désir en mouvement. C'est absolument incapable de faire ça. Enfin, ce n'est pas possible. Ils ne sont pas construits pour ça.
C'est
On
vrai
sort pas.
que tu as qualifié sur X de dernier homme nietzschéen.
Oui, mais c'est Philippe Brun, je le salue, mais il me fait un peu de la peine, en fait. Il a fait son petit truc de l'engagement avec Montebourg. D'ailleurs, Montebourg doit se dire quelle honte. Alors, si tout mon projet là d'engagement, ça finit avec Philippe Brun. Bon, finalement, il a réussi à se faire élire. Bon, il est là, c'est une âme grise, quoi. Il essaie. Bon, par contre, c'est un peu un salaud quand même, hein. Quand il nous parle des gilets jaunes, Philippe Brun, non. Là, on veut pas. Philippe Brun, ça, c'est non. Tu peux faire ton petite magouille PS, mais tu peux pas dire je vais pas voter la censure pour défendre les gilets jaunes. Là, faut arrêter de déconner.
Qu'est-ce qu'il a dit sur les gilets jaunes?
Il
Personne
a
n'a
dit en fait dans son message à François Ruffin, il a dit, moi j'ai entendu des gilets jaunes qui m'ont dit vraiment, il y a urgence, c'est très important, il faut voter le budget, hein, on ne peut pas reconduire le budget de 2024, non, non, il faut absolument, faut pas censurer, etc. Donc il se revendique, c'est vraiment, mais c'est ignoble quoi. C'est des gens qui n'ont jamais mouillé la chemise. Non, ça va pas. Et qui ont fait leur espèce de petit grenouillage là, de petits partis ridicules pour être élus. C'est ça, Philippe Brun. C'est
Non,
ça
il y
le
a quand même
désir.
quelque
Non,
chose,
mais
Harold.
Didier, quel désir, quelle puissance, quelle volonté peut naître de ça? On va lui filer à ce mec 8 000 euros pendant 40 ans, mais est-ce qu'il va aider notre pays? Est-ce qu'il va aider la France? À quel moment un mec pareil peut créer un désir qui emporte l'engouement populaire? Faut
C'est bon,
arrêter, quoi.
il a pris son paquet, lui, c'est bon. Alors effectivement, on entend toutes sortes de pleureuses, hein, du côté PS notamment, nous dire, mais de toute façon, il fallait un budget, l'esprit de responsabilité, c'est ça, on ne peut pas être dans la bordélisation permanente, etc., etc., on connaît les arguments. Mais le budget, justement, qui vient d'être voté par 49-3, c'est un budget encore plus austéritaire que celui qui était proposé par Michel Barnier. On va glisser quelques chiffres quand même au passage, hein. Le budget de l'éducation nationale baisse encore, hein, par rapport au budget Barnier de 200 millions d'euros. Celui de la recherche et développement baisse de plus d'un milliard d'euros. Hein, ça, c'était un chiffre qui était donné tout à l'heure par Manuel Bompard. Celui de l'agriculture donné partout baisse de 13%. Donc les fameux gilets jaunes de milieux ruraux qui, soi-disant, suppliaient Philippe Brun et les autres de voter un budget pour les sauver vont être très mal récompensés, on l'aura compris. Donc, quelles seront les conséquences de ce budget extrêmement austéritaire, dont je rappelle qu'il est encore plus austéritaire que celui de Barnier, qu'on nous annonçait déjà comme le pire de toute la Ve République? Si les
Alors,
gens
ça, il faut qu'on
demandent
fasse un
à
peu de...
prendre conscience aux gens de ce qui arrive dans l'année qui vient.
Voilà. Alors déjà, il faut faire très rapidement un peu de technique parlementaire. Il y avait d'abord cette histoire de commission mixte paritaire, qui est le résultat d'une magouille et d'un arrangement. par M. Bérou, c'est l'article 35, que tout le monde regardera, c'est de la Constitution, hein, où en fait, comme il n'y a pas de majorité, il y a 11 groupes parlementaires et il y a donc pour les commissions mixtes paritaires un tourniquet qui est organisé et qui se sépare avec Europe Écologie des Verts, etc., etc. Bon. Et donc, c'était assez équilibré. C'était 6, 8 contre 8, 7 contre 7, puisqu'ils sont 14. Et donc là, Bérou, qui connaît bien la technique, qui est un vieux politicard, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et donc, il y avait un projet de loi là, qui traînait, qui devait être examiné en commission mixte paritaire, qui était crucial, hein, depuis février de l'année dernière, je crois, qui concernait le vapotage. Et donc, il s'est dit, ah ben tiens, on va parler du vapotage en commission mixte paritaire. Donc, c'était le tour d'Europe Écologie Les Verts. Ils ont été obligés de déléguer quelqu'un et ils se sont retrouvés, la minorité présidentielle, à 8 contre 6. Et donc là, on comprend que c'est comme ça qu'ils se sont imposés et on comprend dès lors que derrière, évidemment, il va y avoir un 49-3, voire deux. Ça coule de source parce que cette histoire de censure, on est toujours sur du métastable, on n'est jamais assuré d'avoir une majorité. Donc derrière, on comprend qu'il y a le 49-3. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de technique parlementaire, c'est qu'il faut comprendre que Bayrou a pris des directives pour bloquer les choses. Parce qu'en réalité, elles ne sont pas bloquées. Je ne vais pas rentrer là, trop dans le détail, mais c'est le budget, en l'absence de budget de l'année précédente qui aurait dû s'appliquer, par douzième. C'est-à-dire chaque fois, le Parlement est saisi, mois par mois, pour assurer la continuité de l'État et vote le budget de l'année précédente. Or, là, et c'est le troisième point qui est vraiment intéressant à examiner, c'est que on pouvait dire ce qu'on voulait de Barnier, mais Barnier, il avait déjà un peu plus de hauteur de vue, un peu plus de classe, il savait qu'il n'allait pas durer, et bon, c'était quand même un peu autre chose que Bayrou, hein, c'était la dimension au-dessus, à tous égards d'ailleurs. Et en fait, Barnier, il avait une direction, son budget. Moi, c'était pas la mienne, c'était pas mes priorités, je n'aimais pas, mais on voyait vers quoi s'attendait. Là, Bayrou, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire, il va durer, pourquoi? Parce que c'est un vrai centriste, un vrai en même temps, et qui fait son petit clientélisme bas de gamme, qui va en donner un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, un peu en haut, un peu en bas, de telle sorte de faire 360 degrés, sans que ce budget ait la moindre direction, la moindre cohérence, avec de l'austérité à tous les étages, mais du saupoudrage. Ce qui fait qu'en plus, qu'en termes de finances publiques, il n'y a pas beaucoup de gains. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas d'économie. Les impôts vont augmenter dans des proportions importantes, y compris pour les classes moyennes, de façon indirecte, parce que les gens ne voient que les impôts directs, l'impôt sur le revenu avec les taux et les assiettes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des péréquations qui sont faites. Et ça va être la grande surprise que tout le monde va découvrir dans ce budget. Donc voilà dans quel exercice on est et voilà quelles sont les conséquences concrètes. Donc on va continuer comme ça, un peu dans le centre mou, dans le rien, avec un emploi. Alors, on va voir les conséquences, hein. L'emploi qui va être complètement détruit. On va assister à l'effondrement du secteur de la construction, des travaux publics, dans des proportions jamais atteintes, l'habitat, etc., comme jamais. On va assister, comme c'est la fin des PGE et la fin du quoi qu'il en coûte, avec un effet un peu retardé, à l'explosion des faillites. Je dis bien l'explosion des faillites. On va assister à l'embrasement du chômage qui va prendre encore un ou deux points dans les prochains mois. Une inflation qui va augmenter dans des proportions considérables. Le fait, on va se prendre en plein visage qu'on soit paumé face à, on en parlera peut-être dans la seconde partie de l'émission, aux États-Unis, à Trump qui va tout à fait s'allier,
On va en parler tout à l'heure. Restons un
voilà,
petit peu sur la France, ouais.
voilà, qui va s'allier avec le Canada et le Mexique, bien sûr, et qui va négocier avec la Chine. C'est un autre sujet pour d'autres raisons. Et donc, nous, comme on est dans une contradiction stratégique majeure, puisqu'on défend les entreprises européennes, ce qui n'existe pas, la souveraineté européenne, ce qui est un oxymore. Donc en fait, on va s'effondrer parce qu'on défend quelque chose qui n'existe pas. Une entreprise européenne, ça n'existe pas. Il peut y avoir une entreprise, une PME italienne, française, allemande, qui exporte. Ça existe. Une entreprise européenne, ça n'existe pas. Et quand elle est européenne, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle l'est pour des raisons fiscales, qu'elle a son siège soit au Benelux, soit en Irlande, et qu'elle fait donc, elle a un établissement stable, un établissement fixe en France, et c'est tout, et qu'elle fait son profit ailleurs. Donc c'est même pas une bonne nouvelle. Donc voilà un peu, sans être grand clair ni devin, ce qui nous attend cette année qui vient, qui va être une année terrible pour l'emploi, pour les travailleurs, pour aussi les petits
Alors,
patrons et pour l'économie en général.
effectivement, Didier, il y a des annonces qui tombent hein, en ce mois de janvier 2025 qui sont très inquiétantes. Hein, délocalisation du côté de Michelin, hein, sur laquelle intervenait enfin, il y a quelques jours Ruffin. Veolia, donc énormément de personnes qui s'apprêtent à être mise au chômage, hein. Une nouvelle saignée d'emplois extrêmement importante est annoncée dans tous les secteurs de l'industrie française. Néanmoins, on a un Bernard Arnault qui fait de la surenchère, qui menace l'État français de délocaliser. Alors, en l'occurrence, je resitue, il réagissait hein, il y a une semaine à peu près à l'annonce de la surtaxe d'impôt de 8 milliards d'euros sur les sociétés qui a été décidée par le Sénat et l'Assemblée nationale. La grande différence, hein, et c'est peut-être là qu'on peut amorcer notre discussion hein, plus large sur la France au milieu d'un nouveau paysage international, la grande différence entre les États-Unis et la France aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que les capitalistes américains sont en train, en tout cas pour une grande part d'entre eux, de redevenir patriotes, de se soucier des intérêts de leur peuple, tandis que les nôtres, eux, n'en ont manifestement rien à faire.
Ben si. C'est pour ça que le discours qui consiste à dire il faut des milliardaires, ça ne veut rien dire. On a perdu les grandes entreprises d'État, on les a perdues une à une, elles ont été démantelées, découpées, hein, nos grands fleurons de l'industrie ont été saccagés, et on ne peut absolument pas comparer la situation de la France aujourd'hui à la situation de la France dans les années 70 ou 80. Le capitalisme d'État tel qu'il était, avec des fortunes, mais qui reposait aussi sur des investissements publics, et en particulier en termes de recherche et développement, n'a rien à voir avec l'accumulation financière de ces milliardaires qui ne font rien pour le tissu industriel de notre pays. En fait, c'est ça a complètement. On voit passer, en particulier chez les LR, c'est cet argument qui consiste à dire, oui, mais si on critique les milliardaires, on est contre justement les. Pas du tout. On a complètement changé de modèle. On a une captation financière des flux, mais qui ne crée absolument pas de réindustrialisation, et pas du tout, puisque d'ailleurs, c'est tout à fait l'hémorragie. Bon, donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, on n'a aucune stratégie. Hein. Les Américains vont investir 500 milliards sur l'IA. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On retire de la recherche et développement les universités qui devraient être à la pointe, en fait, de tous ces secteurs-là. Quelle est la stratégie économique de la tech en France? Qu'est-ce qu'on fait dans ces domaines-là? Quels sont les soutiens? Quelles sont les perspectives, en fait? On n'entend rien de tel, rien de tel. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ben forcément, on est embarqué dans l'UE, qui est un espèce de vaisseau sans tête. Ils sont complètement gros gens comme devant, parce que ils étaient atlantistes, et puis tout d'un coup, la porte se referme. Donc là, ils sont complètement paumés, ils n'ont aucune stratégie à part nous pondre des normes, je sais pas quoi, enfin bref, hein, des choses aberrantes. Donc c'est gravissime en fait. Et moi vraiment, je pense qu'il faut qu'on fédère le maximum de forces, en particulier sociales, souverainistes, et qui ont un intérêt pour notre pays, autour d'un projet politique alternatif. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Ça va être 2025, ça va être le grand collapse avec l'attelage Bayrou-Macron. Enfin, ce n'est pas possible. Non, c'est terrible ce qui se passe.
Alors effectivement, on assiste, hein, on en parlait il y a quelques jours avec Didier, hein, à un changement radical hein, dans la relation des États-Unis au reste du monde. Bah, il se passe plein de choses hein, en quelques jours à peine, hein, depuis l'investiture de Trump le 20 janvier. Les États-Unis ont démantelé leur fonds d'ingérence étrangère, hein, comme USAID. Ils ont admis, en tout cas, même des gens hein, qui passent pour des néoconservateurs comme Rubio, ont admis la fin d'un monde multipolaire et la bascule dans une toute autre ère hein, pour les États-Unis. La puissance américaine admet ça désormais. Il y a aussi toute cette guerre commerciale, toutes ces négos, toutes ces augmentations de tarifs douaniers promises à différents pays par Trump, dont bien sûr l'Europe. Il semblerait donc que l'hégémonie américaine, qui de toute façon, hein, depuis la Seconde Guerre mondiale, sous la forme qu'elle connaissait, devait prendre fin tôt ou tard, eh bien, nous sommes en train d'assister à ça, mais ça se passe aux conditions décidées, bien sûr, par les Américains eux-mêmes, pas aux nôtres. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes en train de vivre des temps tout à fait étonnants et sans doute des changements d'une importance au moins égale au niveau des relations internationales à ce qu'a pu être la chute de l'Union soviétique. Or, face à ça, nous avons, pour la France, nous n'avons quasiment pas de gouvernement en réalité. Nous n'avons pas, en tout cas, de majorité active. Nous n'avons pas de volonté politique claire. Nous sommes représentés, je le disais tout à l'heure, hein, par le personnel le pire et en tout cas le plus impopulaire hein, de toute la Ve République. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent?
Alors, il y a plusieurs, effectivement, tu l'as dit, paramètres. D'abord, il y a cette guerre commerciale qui est un peu en trompe-l'œil. En fait, il y a deux guerres commerciales, hein. Trump fait une pseudo-guerre commerciale au Mexique et au Canada. Et déjà, j'avais dit, moi, rappelle-toi, que c'est un businessman pragmatique qui va bomber le torse comme ça énormément et qui va discuter très vite pour. C'est un businessman et il rate assez peu c'est l'ego, hein, Trump, quand même. Hein. Il est assez bon là-dedans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le Trudeau, là, complètement revenir. J'ai discuté avec le président, ça s'est vachement bien passé. Bon, il a rampé, c'est fini. La présidente mexicaine également, qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu d'abord d'avoir de la police, que ces deux pays fassent la police eux-mêmes, sans que les États-Unis mettent des moyens supplémentaires, donc 10 000 hommes au Mexique, je ne sais plus combien avec la frontière au Canada. Et pour lui, c'est politiquement important pour la lutte contre le narcotrafic, le fentanyl, la fameuse drogue qui fait aller globalement 70 000 morts par an. Donc pour lui, c'est tout bénef. Et il ne faut pas s'y tromper, je pense que il leur a donné un mois, mais ça va. Tout ça va rentrer dans l'ordre. Il faut que tout le monde ait à l'esprit qu'il n'y a pas de droits de douane, en fait. Quand il dit augmentation de droits de douane avec le Canada, le Mexique, il n'y a pas de droits de douane. Et ces deux pays qui sont l'un au sud, l'un au nord, limitrophes des États-Unis, sont en fait complètement intégrés dans l'économie américaine, à la fois pour l'exportation, à la fois pour la main-d'œuvre. C'est une seule et même pratiquement entité économique. Ça, c'est le premier point. Ça va se régler. Ça va être fort. Wall Street a un peu paniqué, mais Trump les a rassurés et ça va rentrer dans l'ordre, à mon avis, assez vite. Il y a une deuxième lutte qui est contre la Chine. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas simplement une lutte économique, c'est une lutte pour prendre le leadership mondial dans les prochaines années. Et c'est une lutte qui va durer des décennies, en fait, hein. Parce que la Chine.
D'ailleurs, peut déboucher un jour sur un nouveau conflit mondial. Hein.
Ah ben oui,
C'est ça la
pourquoi?
perspective, quand même. Hein.
Ben oui, c'est la peur bleue des États-Unis qui ont vu l'industrie de l'armement chinois se développer à la vitesse grand V. Ils ont plus de bateaux, par exemple, plus de navires que l'armée américaine. On ne sait pas exactement quelle est la. Parce que c'est très secret quand même la Chine, la réalité de leurs forces armées, on sait qu'elle est énorme en fait, hein. Et donc là, il y a l'hégémonie sur le reste de la planète qui est en train de se jouer, avec Jinping qui avait dit, qu'il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait à nouveau que la Chine redevienne la première puissance du monde, et Trump qui, l'Amérique de Trump qui est en perte de vitesse, qui ne veut pas mourir et qui veut garder son hégémonie. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Si on resitue ça, tu parlais de l'URSS et de la chute du mur de Berlin. Il faut voir ça aussi que, mettons, jusqu'à la tant qu'il y avait encore l'URSS, il y avait des traités, des accords entre les États-Unis et d'autres puissances du monde sur la non-prolifération des armes nucléaires, par exemple. Ce que la Chine a toujours refusé de signer. Et donc là, le but de Trump, c'est de contraindre la Chine à signer ce genre d'accord pour avoir justement un contrôle sur son armée, notamment sur ses velléités et sur sa stratégie. Et je pense qu'ils vont sans doute trouver un accord économique, mais au-delà de cet accord économique, c'est bien sûr la puissance militaire, stratégique, politique d'influence dans le monde entier qui est en train de se jouer, sans oublier bien sûr l'émergence des BRICS avec l'Afrique, notamment subsaharienne, qui est une part importante, qui pour l'instant est juste partenaire des BRICS, mais avec l'Asie, la Turquie, qui est membre de l'OTAN, rappelons-le, la Russie, l'Arabie Saoudite, et puis toute l'Afrique subsaharienne, ça fait quand même les trois quarts de l'humanité en termes de démographie et la moitié du PIB, quoi. Donc voilà un petit peu les enjeux. Avec la Chine et le Brésil, bien sûr, hein, qui sont membres fondateurs des BRICS. Donc, c'est pour brosser un petit peu le tableau général de ce qui est en train de se jouer à très court terme et à long terme.
Alors Harold, c'est vrai que là, on assiste quand même à un spectacle comique, hein, puisque le maître américain, je le disais en introduction, est en train de se retirer, en tout cas de retirer ses dollars, hein, sur plein de théâtres d'opérations, dans plein d'organisations, et les vassaux ne savent pas quoi faire de cette émancipation et semblent totalement pris au dépourvu, au premier rang desquels, bien sûr, bon, bah, l'Union européenne. Hein.
Parce qu'il n'y a jamais eu, en réalité, comment dire, ça découvre ce qu'on savait, ce qui a été dit d'ailleurs hein, par certains, je pense depuis bien longtemps par François Asselineau, entre autres. Ça découvre en fait tout simplement qu'il n'y a jamais eu de stratégie politique européenne. Il n'y a jamais eu ça. L'Europe a été un vaste marché qui a été une sorte de plateforme pour la globalisation, qui a été pensée comme ça, qui a été pensée sur ce modèle atlantiste. Les gens qui ont été placés aux responsabilités étaient dans cette orbite-là, dans cette idéologie-là. Et là, on est en train d'assister à ce reflux. Et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tout nus sur la plage, quoi. Ils sont tout nus sur la plage et ils cherchent à se raccrocher comme ça, à se cacher derrière des cailloux. Mais il y a rien parce qu'il y a rien qui a été construit. Je crois qu'on a été victime d'une chose qui est terrible et qui a été mal pensée. Et surtout, enfin, surtout, en partie par la gauche. C'est qu'on peut très bien défendre l'idée de nation en étant internationaliste. La force qu'on avait en Europe, c'est qu'on avait des pays qui avaient des logiques et des forces différentes qu'on aurait pu mettre dans un lien justement politique en gardant les souverainetés nationales. On a préféré diluer tout ça dans une espèce de fuite en avant. Et je crains, et Didier l'a dit, hein, que dans cette lutte, dans cette gigantomachie entre les États-Unis et la Chine, on le voit en particulier avec l'intelligence artificielle, parce que je pense que la tech, ça va être le futur, hein, les gros enjeux sont là, c'est pour ça qu'ils mettent autant d'argent là-dessus, eh bien l'Europe voit passer les trains, en fait. Moi, je veux bien qu'on critique Musk, etc., mais il est où le Google européen? Enfin, c'est où, là? C'est Meta, tout c'est... C'est incroyable que l'Europe n'ait pas réussi ça, en fait. C'est un échec total. Les européistes devraient avoir honte, en fait, devraient se dire, mais c'est quoi notre bilan? C'est quoi notre bilan? À part avoir dépouillé
Et c'est
notre
un
pays de
échec
sa puissance, c'est quoi notre bilan?
un échec, juste une parenthèse, qui a été décidé il y a très longtemps déjà. Ça nous ramène à Giscard d'Estaing,
Bien sûr.
à ce moment-là, que la France décide de se, qui était pionnière, hein, sur les questions informatiques, décide de se mettre à la remorque des États-Unis. Hein.
Bien sûr, on le paye, donc ces gens sont comptables, mais le problème, c'est qu'ils sont toujours au pouvoir d'une certaine façon, c'est ça qui est absolument, absolument calamiteux. Un autre point pour compléter ce que disait Didier par rapport à l'Allemagne, l'Allemagne est en récession quand même. L'industrie allemande va très très mal, il y a des fermetures, on parle de fermetures d'usines en France. Bon, en France, on a eu la saignée dans les années 80, hein, où nos PME, et en particulier du secondaire, hein, machines-outils en particulier, ont été complètement laminés. C'est-à-dire que tout le tissu industriel, on va dire des PME entre 50 et 100, 100, 150 salariés, ça a été une hécatombe en fait dans les années 80. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont des fortes PME avec 200, 300, 400 personnes. Et là, ça va aller au tapis, ça va aller au carreau. Donc le cœur de la construction allemande de l'UE est en train tout simplement de ralentir. Et à partir de là, on peut craindre le pire en fait, puisqu'il n'y a pas de. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de plan B. Hein.
C'est grotesque parce qu'en fait, il y a deux pays qui se ressemblent beaucoup, c'est la France et l'Italie. Et effectivement, comme tu l'as dit, surtout n'importe où en France, même en région parisienne, hein, on allait à Boulogne, à Suresnes, à Levallois, à Courbevoie, c'était cafi d'usines, de petites usines, de petites entreprises, etc. Entre 20, 30, 50, 100 salariés qui faisaient de l'aluminium, qui faisaient de la fonderie, C'était un incroyable petit tissu, enfin, tissu de petite industrie hyper performant, familiale. L'Italie a réussi à maintenir ça dans l'hyper spécialisation. Et aujourd'hui, c'est le quatrième pays exportateur au monde avec une population active de 20 millions de personnes et qui est passé devant le Japon, qui a une population active de mémoire. Peut-être 75 millions de personnes. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Ce sont des choix uniquement politiques. On a mis par terre la sidérurgie. Pour revenir aux États-Unis, les États-Unis, effectivement, la France était, comme tu l'as dit, Eudes, le principal vivier d'ingénieurs, de matières grises, les meilleures écoles, les meilleurs ingénieurs. Ça, c'est effectivement depuis Giscard. Progressivement, on a tout mis à la poubelle. On s'est mis à la remorque des Américains, qui sont un peu basiques, hein, qui produisent pas d'ingénieurs. Ils ont une véritable carence d'ingénieurs et ils vont les chercher où? En Chine, en Inde, et ils essaient de recruter. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec Madame Loiseau, des boucliers démocratiques, patati patata, où on fait des simagrées avec Monsieur Macron, qui fait des discours sans teneur, sans profondeur, sans moyens. Il faut qu'on soit les premiers, il a dit cet après-midi, sur l'intelligence artificielle. Oui, mais avec qui, avec quoi, quels moyens, comment? On a tout laissé partir. Ce sont des paroles verbales. Donc, on a perdu tous les combats. Je dirais que la Russie, par exemple, dont on se moque beaucoup, fabrique énormément d'ingénieurs. Et l'Inde fabrique énormément d'ingénieurs. Tous ces pays qui sont hyper dynamiques, qui ont d'autres problèmes, hein, mais qui sont hyper dynamiques, qui ont une croissance qui est 3 à 5 fois la nôtre dans la zone euro et donc dans celle de la France. C'est là que ça se joue aujourd'hui. En plus, ils ont, alors pour la Russie, c'est pas vrai, mais pour tous ces pays émergents qui a bien longtemps qu'ils ont émergé, il y a aussi une jeunesse qu'on n'a plus chez nous, puisque l'Europe est un pays complètement vieillissant. Et comme je le dis, la Russie a un problème démographique aussi, et la Chine aussi maintenant. Donc on voit, quand on met tout ça bout à bout, on voit un petit peu ce qui est en train de se jouer. Et en fait, la dilution dans l'Union européenne ne nous permet pas d'avoir une stratégie. On le voudrait qu'on ne le pourrait pas, parce que d'abord, on est 27, avec pas la même culture, pas les mêmes politiques, avec beaucoup de disparités. Du dumping fiscal, social et économique au sein même de l'Union européenne, de la compétition entre l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, le Benelux et la France, des visions, et le Portugal, des visions complètement différentes en termes de droits sociaux, en termes d'alliances aussi, avec un nouveau paradigme qui est l'atlantisme contrarié avec l'arrivée de Trump, qui exècre la social-démocratie et plus encore les Macron. Donc voilà un peu le cocktail explosif. Donc il y a une seule possibilité, de mon point de vue en tout cas, raisonnable, ce serait de s'autonomiser, de retrouver une souveraineté Non pas pour dire on est les plus forts, mais pour au moins avoir une stratégie que chacun puisse comprendre et
Alors,
suivre.
justement, question, bah justement, on est directement là-dedans, hein, questions qui viennent du chat ce soir. Pensez-vous que nous allons rester les toutous des États-Unis même après l'élection de Trump? Allons-nous nous réveiller enfin? Et dans la même veine, hein, autre question du chat, n'y a-t-il pas malgré tout une évolution du monde journalistique sur la question européenne? Il semblerait que la critique de l'UE se fasse plus présente. Là, très franchement, je n'en suis pas sûre. Mais voilà, Harold, comment est-ce que tu vois la position française évoluer maintenant, avec ce changement de pouvoir complet américain? Il y a quelques jours, hein, il y a eu une grande interview de Vladimir Poutine, hein, dans une voiture que vous avez sans doute, dont vous avez sans doute vu des extraits comme tout le monde. Et il disait que les dirigeants européens, tous, France compris, seraient bientôt à frétiller, je passe son expression exacte, hein, imagée, seraient tous à frétiller bientôt auprès de Donald Trump.
Musk a eu une expression similaire avec Trudeau. Je pense que ces expressions, il faut les prendre très au sérieux. Alors, évidemment, on a le retour sur la scène internationale d'une forme de brutalisme, de virilisme violent. Ces expressions sont choisies. On est dans un ordre de domination, hein, sado, hein, c'est vraiment ça, c'est la soumission. Donc, il raisonne comme ça, hein, Poutine. Hein, c'est voilà, je te soumets, tu es ma chose soumise, en fait. Musk, c'est la même chose. Trump, c'est pareil. Bon. Alors, nous, on a en France, sans rentrer dans les détails, mais on a une espèce de psychodrame à la tête de l'État, une espèce de. On ne sait pas trop le nommer, en fait. Une chose, on va dire, une chose, une entité mondaine qui, évidemment, se prête à ce genre, évidemment, de jugement. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, un, c'est très inquiétant. Lorsque la communication mondiale, la diplomatie mondiale passe par ce genre de propos sadomaso, on peut être quand même très inquiet sur les relations qu'on peut avoir avec ces pays. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est que face à ça, il faut quand même une certaine autorité. Il faut qu'il y ait des politiques capables de dire, nous avons des intérêts, nous sommes aussi une puissance. Enfin, j'ai l'impression que la France... Enfin, moi, quand j'étais gamin, il y avait des livres, un peu des livres d'enfants, où on avait, vous savez, le classement de la France avec des petits podiums. Hein, il y avait le blé, il y avait l'industrie, il y avait la téléphonie, etc. Je dois avoir encore ça dans un grenier chez ma mère, j'imagine, ce livre-là que je regardais. Et à chaque fois, il me disait, ah, on est pas mal placé. Alors, je regardais quatrième, cinquième, etc. Il y avait les petits diagrammes. Bon, on a évidemment énormément reculé. Il y a eu la globalisation. Mais la France n'est pas rien quand même. On a l'impression qu'on est passé de tout à rien. Non, on n'est pas rien. On a des ressources. On a quand même des possibilités, en particulier intellectuelles. On a une formation. On a une histoire. On n'est pas rien du tout. On ne va pas se laisser quand même maltraiter par ces gens. Parce que là, on est vraiment dans un rapport de force symbolique. Et je crois qu'il faut que les Français aussi se réveillent. Parce que quand on voit des histoires de mœurs là qui circulent, oui, c'est grave. Oui, c'est grave quand symboliquement le pays se trouve humilié. Et oui, il y a une responsabilité de l'État. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc là, je pense qu'il faut vraiment que tous les politiques prennent conscience qu'ils sont rentrés dans un rapport de force, qui est un rapport de force aussi d'image, de présentation. Hein, on pensait à Dominique de Villepin, mais on peut en penser ce qu'on veut. Mais n'empêche que dans l'esprit des Français, en 2003, il y a un homme qui s'est levé, qui a dit non aux États-Unis. Voilà, c'est important. Et il y a plus de 20 ans, en fait. Et on s'en souvient encore. Bon, c'était avec Chirac, mais on se souvient de ça. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin aujourd'hui d'incarnation et pas simplement de petits magouilleurs politiques qui veulent être élus pour gratter un peu de pouvoir et se faire cirer les pompes pendant 5 ans. C'est honteux, c'est obscène. L'enjeu
Alors,
aujourd'hui mondial de ces rapports de force, il nous oblige en fait à choisir des hommes politiques capables de tenir la barre en fait. Là, c'est décisif, quoi.
ce que tu dis, Harold, sur le sujet, c'est on peut l'expliquer, cette erreur qui remonte, d'abord aux années 80, pour la fin de la sidérurgie, l'acier, etc. Les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, hein, C'est-à-dire, globalement, c'est Jouyé, quoi, hein. C'est la figure du haut fonctionnaire qui s'occupe un peu de tout, qui fait défait les hommes politiques, qui fait les stratégies industrielles. C'est les Jouyé, c'est les Attali, voilà. C'est toute cette engeance de personnes qui font que des choix, et des Bretons, désastreux pour le pays. Donc, fin de l'industrie.
Ils n'ont aucune culture industrielle, ils n'ont aucune culture
Voilà.
économique, ces
Donc,
gens, ils sont
la
pas.
sidérurgie, on l'a dit, l'acier, c'est fini. Il n'y a qu'à voir ArcelorMittal, on en a parlé dans une précédente émission. L'acier, ce n'est pas du tout fini. Hein. Bon. Ensuite,
La plupart de ces gens-là viennent de la banque d'affaires, hein. Donc
toujours,
ce sont des
c'est-à-dire,
parasites. C'est ça la grande
voilà,
différence.
qu'est-ce que la banque d'affaires? La banque d'affaires n'est que l'extension de l'État. En fait, c'est le pont avancé de l'État, c'est du parapublic, en fait. Hein. Les banques d'affaires ne font des affaires qu'avec la complicité des États, c'est-à-dire avec des multinationales qui sont des parties, qui sont parties prenantes de l'État. C'est-à-dire quand il y a des fusions, des acquisitions-fusions, quand il y a des grands domaines d'activité, ces entreprises multinationales, elles sont évidemment utilisées comme des fers de lance. Elles peuvent être dans l'énergie, comme avec Elf. On connaît tous l'histoire Elf. Elle peut être dans l'agroalimentaire, etc., dans la sidérurgie. Je ne vais pas développer davantage. Donc, et ensuite, donc première phase. Ensuite, il y a eu la fin des années 90 et le début des années 2000, où là, on a encore loupé un autre virage, puisqu'on s'est dit, on va faire du service. On va faire du service. Ça continue aujourd'hui avec la Startup Nation, en fait. On va faire du service, les Chinois vont travailler pour nous, les Indiens vont et les Sri Lankais vont faire de la main-d'œuvre pas chère avec les Mauriciens, les Malgaches. Et puis nous, on va se reposer, on va faire travailler les machines et on va être dans une société du loisir. On va faire les 35 heures, on va glander, on va voyager. Il y a un petit problème hein, avec ça. C'est que, un, on n'a plus de pouvoir d'achat. Deux, que l'industrie, la nature à horreur du vide, elle s'est pas du tout arrêtée. Elle a été captée par d'autres pays qui ont une croissance à deux chiffres. Trois, que effectivement la France va être, et Paris notamment, une espèce de musée mort à ciel ouvert où des riches clientèles se feront balader sur des pousse-pousse par des pauvres Français qui les pousseront. On s'est planté, surtout, il faut bien voir ça. Et on a démantelé tout ce qui faisait notre richesse, notre énergie avec le nucléaire, notre industrie automobile par exemple, hein, puisqu'on était encore avec Peugeot, Citroën et Renault, encore on pouvait faire la course en tête. On n'a fait que des erreurs stratégiques, y compris avec les équipementiers qui aujourd'hui, c'est les Italiens qui se sont hyper spécialisés, y compris pour Porsche, BMW, Audi, les marques premium et qui vendent énormément. Donc, c'est la disparition de cette grande industrie structurante et de cette petite et moyenne industrie. Donc, à partir de là, si on n'a que du service qui ne crée pas d'emploi avec du télétravail, eh ben on va s'effondrer. Parce qu'à un moment, la valeur ajoutée, c'est quand même des espèces volantes et trébuchantes, c'est quand même des biens. Pas simplement des services, mais aussi des biens. Et c'est très important ce qu'a dit Harold sur les manuels scolaires, qui sont le bout de la chaîne, en fait. Quand on était gamin, on avait tous, notamment ces livres de géo, où on avait les notes, les classements, les camemberts de l'OCDE, les graphiques. Ah bah oui, emblée, la France est deuxième, là, les premières, c'est génial. On a tous eu ça. On disait, comment ça, on n'est que quatrième dans ce secteur-là? Bon, voilà. Là, en fait, ça a disparu avec tout esprit. Alors, j'aime pas trop le mot compétition, qui abrite aussi d'autres notions, mais le fait que on doit quand même être dans l'excellence, qu'on doit produire, que l'électricité, les voitures électriques, c'est bien beau, mais que l'électricité, ça se produit, que ça se produit comment? Par du nucléaire, par de l'industrie décarbonée, et qu'on n'est pas l'Espagne, même si on est un pays ensoleillé. On n'a pas de terre assez disponible, il n'y a pas assez d'ensoleillement, donc on ne peut pas aller sur des. Quand j'entends la transition écologique, énergétique, etc., tout ça, c'est du vent, quoi, hein. Donc, voilà. Dernier point, parce qu'on nous cite souvent des pays scandinaves en exemple. Le modèle scandinave. Regardez, j'ai entendu encore l'autre fois sur TF1 tout un reportage sur la Norvège, paradis des voitures électriques. C'est génial la Norvège, regardez la. Oui, mais la Norvège, la manne de la Norvège, c'est le pétrole. C'est marrant, hein? Ils ont fait toute leur fortune avec le pétrole. Et donc, finalement, ils continuent à vendre du pétrole parce que leurs ressources en pétrole sont énormes. Et ils font les kékés avec des voitures électriques parce que 90% du parc et les villes produisent plus d'électricité qu'elles n'en consomment, etc. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait des mauvais choix. Quand je dis on, c'est cette espèce de capitalisme de connivence qui est en fait la haute fonction publique, qui ne fait que catastrophe sur catastrophe, alors qu'on est le pays de l'intelligence avec une géographie particulièrement adaptée, particulièrement géniale au centre de l'Europe, avec un beau territoire, des infrastructures, le deuxième ou le premier territoire maritime du monde. Enfin, on a beaucoup d'atouts quand même, hein. Et donc, par ces mauvais choix, années 80, fin des années 90, début des années 2000, et avec la Macronie qui en est l'expression ultime, la Startup Nation, on est en train de s'effondrer parce que l'économie, elle repose quand même sur du concret. Je veux bien que dans le PIB, on mette les compagnies de CRS et de pompiers, c'est ce qu'on fait, mais ce n'est pas ça qui fait la richesse d'un pays.
Et si Didier, si on devait acheter une perceuse fabriquée en France, on ne pourrait pas. En fait, on a maintenu notre pouvoir d'achat en important de la merde en grosse quantité. Les Français, en fait, s'en rendent pas compte, mais le problème, c'est qu'on ne produit rien, donc on importe. Et donc, on a maintenu une espèce de semblant, en quelque sorte, qui s'est dégradé, parce qu'évidemment, on consomme des choses qui sont dégradées. On a perdu nos savoir-faire et on s'est rendu complètement dépendant de l'extérieur. Et c'est simple. Et deuxièmement, et Aude le dit très bien, ce sont des banquiers d'affaires, ce sont des vautours, ce sont des parasites. Macron, c'est que ça. C'est on vend Breton, Thierry Breton. Mais regardez le parcours de Thierry Breton, c'est effrayant. Et on nous présente ces gens comme des génies. Non, mais le monde,
C'est un
c'est un
serial
délire, en fait.
killer d'entreprise.
Un serial killer d'entreprise, un type qui dépèce, en fait, qui détruit, qui enlève. Dernière chose, dans les années 80, je parlais des PME, en particulier dans le secondaire, sur la machine-outil, mais tout ça a été lâché, il n'y a eu aucune stratégie. Que ces gens disparaissent, c'est la vieille France qui pue, ça pue le cambouis, qu'est-ce que c'est que ces trucs, là, ces entreprises? C'est pas le nouveau monde, ça. Mais le problème, c'est que le nouveau monde, non, non, c'est très concret. Vous avez des pays aujourd'hui qui soutiennent leur économie industrielle et qui s'en sortent évidemment mieux que nous. On est en fait une espèce de parc de zoo de consommateurs UE avec des normes. On va vous expliquer qu'il faut laver votre slip 2 fois, le jean 6 fois, etc. Donc voilà, moi, on m'apprend ça. Hein, on m'apprend qu'il y a les ZFE, qu'il faut que je change de bagnole, etc. Donc, on va vivre en fait dans un parc à thème, une sorte de Disneyland où on ne produira plus rien. On aura des neuneux qui vont bunkeriser avec des boucliers démocratiques, un espèce d'asile technocratique. Et moi, je crains vraiment le pire, en fait. Parce que là,
Alors,
encore une fois, s'il n'y a pas un sursaut politique, honnêtement, ça va être très, 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 très
très
dur.
brièvement, je voudrais juste
Ouais.
rajouter deux trucs très vite
Ouais.
sur les manifestations concrètes, parce qu'il faut toujours être concret dans la vie des gens. Tu disais, on a des produits très dégradés, on est incapable de fabriquer des produits en France. Mais effectivement, je ne vais pas citer de nom d'enseigne discount, mais tu vas acheter une perceuse, au bout de, tu vas faire 3 trous, elle va te rester à la main. Tu leur as payé 20 balles, la perceuse, hein, c'est sûr, mais tu vas percer 2 trous et c'est fini. Alors qu'on avait toute une petite production, enfin des petites usines, etc., qui produisaient, on avait Moulinex, tous ces trucs-là, qui produisaient de la qualité, des produits qui se transmettaient de père en fils sur 3 générations. Hein. Moi, j'ai encore des perceuses de mon grand-père qui marchent parfaitement, quoi, bon, fabriquées en France. Ça a d'autres implications, parce que comme on est une zone de consommation informe, ouverte à tous les vents, ouverte dans un sens, fermée dans l'autre, c'est comme les fanons d'une baleine, l'Europe en fait, hein. On a attiré toute la merde chez nous. C'est-à-dire que comme on ne produit pas, alors qu'on est un pays vide, c'est-à-dire un pays d'agriculteurs normalement, il y a 80% du territoire qui est vide, c'est-à-dire il y a 20% des gens qui vivent sur 80% du territoire. Enfin, c'est absolument hallucinant. Et qu'est-ce qu'on fait? On importe des mauvais produits qui font le tour de la planète. Alors c'est sûr, hein, le paquet de pâtes, on va le payer toujours dans la même enseigne discount, 70 centimes d'euros, etc., etc. Les yaourts, pareil. Et au bout du bout, on apprend aujourd'hui, hein, tous les médecins et les agences de santé disent, on ne comprend pas, il y a une explosion des cancers, notamment des cancers du côlon. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme depuis pas mal d'années sur les produits transformés, sur l'industrie agroalimentaire, sur les ravages que fait le sucre, notamment tous les produits ajoutés, les graisses saturées et surtout le mauvais sucre dans les produits. Maintenant, on en est à vouloir interdire l'aspartame. Tout ça crée des maladies cardiovasculaires, des turbo-cancers, des cancers du côlon, du diabète, de l'obésité, du surpoids. Et donc, on ne gère pas ça à la source, on gère toujours en bout de course, comme on l'a fait pendant le Covid, en appelant ça du doux nom et assez terrible de comorbidité, sans s'atteler aux réelles sources du problème, alors on a du bon lait et du miel autour de nous, quoi. Il suffit de se baisser, hein, et on ne le fait pas. Ça, c'est le résultat de politiques complètement choisies, assumées, défendues par Madame Loiseau, par Madame Ayé, par Monsieur Macron, par Monsieur Breton et Madame von der Leyen. Ce sont des politiques qui sont décidées. Ça ne tombe pas de la lune. Donc voilà des manifestations concrètes en termes d'industrie. On pourrait le faire pour l'habillement aussi et en termes de consommation alimentaire, avec tous les problèmes que ça crée sur l'ensemble de la population, notamment chez les jeunes, parce qu'il y a une mortalité qui est en train d'exploser chez les jeunes. Et on verra dans 10 ans, on va avoir des surprises, hein.
Alors en tout cas, au niveau du patriotisme économique, hein, la solution n'est pas proche parce que je regardais il y a quelques jours, hein, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, le baromètre 2025 de Opinionway de la souveraineté économique. 94% des 500 entreprises qui ont délocalisé considèrent une relocalisation en France comme inenvisageable dans les conditions actuelles, hein, avec une hausse de 6 points par rapport à 2024, sont particulièrement mis en cause, hein, les coûts de production trop élevés, parmi lesquels l'énergie, bien sûr, la fiscalité et les réglementations en tout genre propres à notre pays. Est-ce que ça vous inspire?
Non, mais d'abord, l'énergie, c'est une vraie catastrophe, c'est criminel ce qui a été fait. Avec De Gaulle, on a fait le nucléaire. On peut ne pas être fan du nucléaire, moi je ne suis pas pour le lobby du nucléaire, comme on dit. Et je sais très bien que l'enfouissement des déchets du nucléaire, à terme, ça posera un problème. Pour l'instant, le nucléaire français, il n'y a jamais eu un vrai accident grave. Et c'est. Une technologie qu'on maîtrise parfaitement, qui est sûre, qui ne pollue pas, qui est propre, qui est complètement décarbonée. Moi, je suis pour, comme tout le monde, qui a un cerveau pour la transition énergétique. Si on trouve demain la martingale, qu'on est capable de produire pas cher une énergie qui fasse vivre tout le monde et qui pollue pas la planète pour 100 000 ans, ben moi, je signe tout de suite, c'est vous qu'on signe, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Donc, on a démantelé l'énergie, on a démantelé le nucléaire. Monsieur Voynet, Monsieur Hollande, Madame Borne, Monsieur Philippe, qui a fait des conneries avec Areva, mais il était quand même là. Ah ben non, le nucléaire, c'est pas bien, c'est dépassé. Tout le monde, pour se rendre compte après, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait dans l'urgence de rétropédaler. Sauf que rétropédaler, c'est pas comme ça dans le nucléaire. Il faut 5 ou 6 ans pour former ne serait-ce qu'un soudeur. Le retard qu'on a pris, il ben, y en a pour 15 ans à rattraper le retard. C'est toujours rattrapable, mais voilà. Première erreur. Deuxième erreur, évidemment, avec ce qu'on a fait avec la Russie, les sanctions, mais c'est un drame. C'est un drame. On a triplé le prix du gaz et de l'électricité. Ça a conduit à ce que les pays limitrophes comme l'Allemagne nous envoient une pollution incroyable, observable depuis l'espace. C'est absolument incroyable avec les centrales à charbon. Et on nous présente ça, je décale, mais enfin, et on met des cols roulés. C'est ça la solution de la France Alors que si on était resté juste dans notre industrie, dans notre savoir-faire, on paierait notre énergie 4 fois moins cher aujourd'hui. 4 fois moins cher. Et ça aurait permis non seulement aux entreprises de ne pas délocaliser, mais aux petites entreprises qui, elles, ne peuvent pas partir, qui représentent 99% des entreprises, le boulanger, l'artisan, le commerçant, de ne pas mettre la clé sous la porte. C'est ça, ce sont des choses très basiques, très simples, qui sont le résultat de politiques. Et effectivement, une entreprise qui s'est tirée aujourd'hui avec la fiscalité, le coût du travail, le coût de l'énergie, on va dire que je suis un hyper-libéral, mais je suis aussi chef d'entreprise. Une fois que tu as fait des choix, parce qu'on nous avait vanté, oh, les gens relocalisent, ils vont revenir, parce qu'ils ne reviendront pas, les gens. Il y a des pays où c'est 10 fois moins cher, où tu es mieux accueilli, où les gens t'attendent, où pour les salariés c'est mieux, où on te pique que 20% de ton salaire et pas 80%. Donc voilà, ce
Ah
sont
mais
c'est le résultat de politique.
il faut qu'on retrouve en fait notre souveraineté. Tu vois, Dan Jurgensen, qui est le commissaire, le commissaire en fait à l'énergie Europe, quoi, hein, qui va présenter son pacte, là je crois que c'est fin février, sur la neutralité technologique, impose en fait l'énergie propre, mais avec l'éolien et donc avec une stratégie européenne. On va achever, on va abattre le nucléaire français.
C'est fini.
C'est leur vision, c'est leur idée. Et il y a des articles qui sortent et qui ne sont pas des articles de. Voilà. Et c'est vrai. Alors, pour le coup, par rapport au message qui avait été donné, il y a quand même sur certains journaux, ça commence à gratter un petit peu quand même. Il y a quelques articles qui sortent en particulier sur cette idée de l'énergie du nucléaire. Mais le problème, c'est que c'est des articles sporadiques qui ne font pas les liens, en fait, avec notre vassalisation bureaucratique et technocratique UE. Les
Et
liens
qui
ne
n'ont
sont pas faits,
pas.
les liens
Et
politiques
qui
ne sont
n'ont
pas faits.
pas, on y revient ici, hein, sans cesse dans le quartier populaire, qui n'ont pas de relais politique, qui ne sont pas portés par des forces
Jamais,
politiques dans le
jamais,
pays.
jamais. Le pacte, Dan Jurgensen, ce qu'il veut faire là, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il impose en fait l'éolien. Chaque pays devrait arriver à cette espèce de neutralité technologique, mais avec ses propres moyens. Nous, on a des centrales nucléaires. Eh bien, on fait avec ces centrales nucléaires. Pourquoi nous imposer de l'extérieur de l'éolien? Pourquoi? Parce que les Allemands en 2011 sont sortis du nucléaire, en fait. Le problème est là. C'est des rapports de force. Donc en fait, on a le pire. On a le pire de l'effritement et le pire du commun. Tout ça au détriment de notre propre stratégie. Et aucun politique ne porte ça. C'est vrai, aucun politique.
Et
Alors
puis,
la gauche et la droite, moi je veux bien, mais.
si on boucle avec les États-Unis de Trump, effectivement, en plus, le gaz de schiste va être exploité, mais d'une façon incroyable. Et puis, il va nous revendre son gaz, ce qui fait déjà dégueulasse et extrait dans des conditions assez rocambolesques, qui ne sont pas terribles ni pour les personnes, ni pour l'environnement. Mais en plus, cette histoire du Groenland. C'est pas du tout comme je l'ai lu la plupart du temps. Oh là là, il a une volonté hégémonique, il veut conquérir la planète. Et nous, qu'est-ce qu'on répond Haddad, enfin, on a les charlots, quoi. Je veux dire, Haddad, Séjourné, Macron, qui disent on va envoyer des hommes au Groenland, ou Jean-Noël Barrot, parce qu'on va faire la guerre à Trump. Hein. On va mettre des hommes, s'il va attaquer le Groenland, on va défendre les Groenlandais. Non, mais tu te dis, mais
Alors,
où
non,
on
mais
est? Parce qu'en fait, ce qu'il veut faire, pour finir, juste, Aude,
non, non,
il veut
mais
juste.
je ne change pas de sujet. Mais c'est vrai que ça paraît totalement hallucinant. Mais notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, hein, l'inénarrable Jean-Noël Barrot, a vraiment dit que nous serions présents face aux États-Unis en cas de tentative à l'égard du Groenland, etc. Bon, voilà,
Non,
donc.
parce que pour aller au bout de l'idée, il va rien.
Nous avons prétendu déjà que nous prendrions le relais des États-Unis face à la Russie pour soutenir l'Ukraine. Et maintenant, nous sommes prêts à ouvrir un second front après la Russie contre les États-Unis. Voilà, voilà l'absence
Dans les faits, on
de.
est nulle part. Hein. Dans les faits, on est nulle part.
Voilà,
Voilà.
on est
Non,
nulle part,
mais
on
ce
est
qu'il faut bien
catastrophique.
comprendre, c'est que c'est ridicule en plus, que d'abord, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas des conflits armés. Ce n'est pas Trump qui va avec des Marines sur son bateau en chantant la chanson de Céline Dion sur la proue du Titanic. Make America Great Again. C'est juste que ce sont des intimidations. Parce que ce qui compte, c'est exploiter les ressources du sous-sol. Ce que le Danemark, pris dans l'Europe, est interdit de faire pour des histoires, là encore, de normes, de, bon, etc. Donc lui, il va juste dire It's mine. Comme Bush, père et fils, on dit dans le pétrole en Irak It's mine, it's me, it's mine, it's for me. Voilà, c'est tout ce qui va se passer, hein. Et donc, quand on est sorti de tout, en fait.
Grave.
Et quand on parle avec des Américains, moi, ce qui m'est arrivé il y a peu, ou encore avec des Russes, ce qui m'arrive fréquemment, mais des gens hallucinent. Je veux dire, on passe pour des cons à l'échelle de la planète, puisque, en fait, on ne pèse plus rien et que personne ne nous demande notre avis. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est de faire un peu comme personne n'a vraiment contesté que le pays n'existe plus vraiment, c'est dire on a sauvé le Liban. Le président Macron est allé au Liban et il a eu un rôle fondamental dans le changement au Liban. En fait, on en est là quand même, hein. Donc voilà.
Harold, un dernier mot.
Un dernier mot. Bon, d'abord, par rapport à tous ces causeurs, il faut qu'ils arrêtent de causer et qu'ils s'en aillent, qu'ils quittent la place. On n'en veut plus. On les connaît. C'est nul. C'est sans dimension. C'est faible. Ce sont des traîtres. C'est nul. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ben, il faut quand même qu'on arrive enfin, et je le répète à chaque fois, à ce qu'il y ait un débouché politique de tous nos constats. C'est-à-dire que je pense qu'on peut arriver quand même à structurer quelque chose qui pousse au moins des gens qui ont une parole politique nationale à s'emparer de ces questions-là. Et on ne pourra pas le faire si on reste sur le petit bricolage droite-gauche. On va faire en fait une motion parce qu'il y a la submersion migratoire, mais le RN ne va pas voter, donc on sera légitime à gauche et on aura exclu la France insoumise, et comme ça on pourra gagner la députation. Non, arrêtez là. En fait, là, ils jouent aux billes. Nous, on est des adultes, on est sérieux. On pense à notre pays, on pense à nos enfants, on pense à l'avenir de notre pays. On en a marre, en fait, de ces guignols qui jouent aux billes sur fond public et qui ne nous laissent aucune chance. Donc, conclusion, il faut être dur avec ces gens et optimiste sur le fond. Voilà, fédérons sur du sérieux et avec des propos d'adultes, pas des jeux de billes.
Didier, un dernier mot pour ce soir?
Oui, alors je pense qu'il va y avoir effectivement un moment important qu'il ne faudra pas louper, qui est la réunion du constat de l'effondrement du monde politique et de son abrutissement et de son avilissement, hein, je dirais même, hein, et de ces jeux permanents qui sont complètement stériles, et la prise de conscience du peuple français du fait que le souverainisme est la solution. Dans un monde qui s'effondre, une Europe qui n'est plus que une idée, une vague idée comme ça, une espèce de maelstrom lointain, on voit quand même que les pays qui vont s'en sortir sont des pays qui sont souverains, souverains même sur leur action. Trump, il a fait plus en quelques jours que nous en 20 ans. C'est-à-dire, il est en train de remodeler le monde. Alors, on peut dire que c'est la première puissance mondiale, etc. Non. C'est juste la puissance du verbe, de la volonté et de la politique. Et il refait de la politique plutôt bien, je dirais. Après, je ne suis pas sur l'aspect moral et les cris d'orfraie,
Alors,
etc.
je pense qu'on n'est pas non plus au bout de nos surprises, hein, mais.
Non.
Non, mais on sera, mais je pense que nous, on va avoir des mauvaises surprises, mais je ne suis pas certain que pour les Américains, ce soit des mauvaises surprises.
En tout cas, on voit ce que donne l'alignement entre une volonté populaire et un pouvoir. Et nous, évidemment, on a exactement l'inverse à l'heure actuelle.
Voilà, et donc je pense que
Exactement. Tout le
ce
problème
moment,
est là.
les moments, la lueur d'espoir, elle est là pour moi, hein, par rapport à ce que tu dis toi et ce que disait juste avant Harold, ça ne va pas durer longtemps. C'est cette réunion entre la prise de conscience populaire de la nécessité d'une souveraineté et la déliquescence du monde politique et de l'Europe qui ne se sont trompés que sur l'essentiel. Et donc de cette réunion-là, peut-être jaillira une candidature, voilà, quelque chose. Mais ça ne va pas durer longtemps, hein, parce qu'une fois qu'on sortira de l'histoire, on sera complètement sorti. Parce que là, ce qui est en train de se jouer entre la Chine, notamment, et les États-Unis, il y en a pour des décennies, hein. C'est tellement gigantesque d'asseoir comme ça sa domination sur le monde avec tout ce que ça implique en termes démographiques, comme on n'a pas trop parlé aussi, que bon, nous, on pèse plus rien, hein. Et l'idée sur laquelle on a vécu, quand même, mettons ces 50 dernières années, après le traité de Rome, sur l'idée que l'Union faisait la force, ça a pu être vrai à une époque. La communauté de l'acier et du charbon, Airbus, tous les grands projets structurants, c'est plus du tout vrai aujourd'hui pour toutes les raisons qu'on a exposées dans cette émission. Donc aujourd'hui, je pense que les pays qui vont s'en sortir sont ceux qui joueront sur leurs atouts, qui seront hyper spécialisés, parce que l'Italie, elle est en train de réussir sur de l'hyper spécialisation. Il faut voir que, par exemple, dans les parfums, c'est des structures familiales encore pires qu'en France, encore mieux qu'en France. Il y a des gens qui sont spécialisés sur une fragrance, sur une pièce automobile. Et avec ça, ils font fortune et ça devient le quatrième pays exportateur du monde, du monde. Donc, rien n'est inéluctable, mais il faut faire les bons choix. Et pour ça, à mon avis, la souveraineté, c'est quoi? C'est de pouvoir décider que cette émission, maintenant, on a trop parlé, je suis trop bavard, ça s'arrête. Tu vas me dire, ça s'arrête? Ça s'arrête. Et on va pas téléphoner à Madame von der Leyen. Savoir si demain, à quelle heure il faut arrêter. Voilà.
Magnifique fin. Merci les amis, merci Harold, merci Didier, merci à tous ceux nombreux qui ont suivi ce soir Quartier Populaire, l'émission que nous avons lancée au mois de mai, je ne dis pas de bêtises, hein, au mois de mai 2024, et nous ne savions pas tout ce qui arrivait derrière la dissolution, tout ça. Une émission pour recréer de la force collective hors des partis et pour obtenir une libération nationale. Voilà, je vous dis la vaste tâche. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à dans 15 jours. Nous serons au rendez-vous. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Je rappelle que QG, bien sûr, est un média à 100% indépendant qui ne vit que de votre engagement, notamment financier, ce qui nous permet de tenir un tout autre discours que sur les antennes mainstream. Je crois que vous en avez eu encore un exemple ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de soirée à tous.